Bienvenue à l'atelier ou le panel « Faire de son engagement éco-responsable un modèle collaboratif ». Je me présente, je suis Mathieu Larochelle, je suis un administrateur de Rideau. Je suis membre Spectour, ça c'est une salle à 10 heures de route d'ici, au Théâtre des Esquerres, à Amos. On a covoituré. On avait un forerunner, mais on a covoituré. L'atelier est présenté par Recycle Québec. L'atelier vous invite à travers des propositions d'applications concrètes, genre d'affaires qu'on va mettre dans des cases, et des modèles inspirants à venir explorer de pistes de solutions pour faire de vos actions responsables un projet commun, engageant pour toutes les parties prenantes. Je cède la parole à l'animateur de cet atelier. Là, je voudrais qu'on l'accueille comme c'était Taylor Swift. Jérôme Clich, chef d'équipe au soutien aux organisations chez Recycle Québec, qui vous présentera les deux personnes qui les accompagnent.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'être là. Vous aviez le choix entre 5 présentations, puis quand même, on a une salle super bien garnie. Je suis vraiment content. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Tout de suite, je vous présente nos deux invités. On a Ludovic Bastien, qui est propriétaire et fondateur du Beet & Betterave à Friedrichsburg. Ludovic, musicien, pigiste et soundman, qui a été formé en musique au Cégep à l'université, a marqué son empreinte dans le domaine en ouvrant en 2015 le Beet & Betterave avec sa conjointe Héloïse Comtois. Bienvenue à toi, Ludovic. Et Lara Urny, coordonnatrice et maître d'hôtel, événements, réceptions, mariage au Cabaret Lion d'Or, au Petit Extra à Montréal. Alors, tu cumules 10 années d'expérience de travailleuse autonome à titre d'autrice, compositrice, interprète indépendante, auparavant gérante de la salle au Lion d'Or. Tu es maintenant coordonnatrice d'événements privés et corporatifs. Merci à toi, Lara, d'être là. Alors, merci à vous d'être là. Ce qu'on va faire ensemble, on a une heure. Alors, je vais vous présenter un petit topo sur l'éco-responsabilité et la collaboration. Puis, suivra ensuite un échange avec notre panel et il y aura un échange question avec vous pour la suite. Alors, on y va tout de suite avec une petite introduction. Alors, pour ceux qui connaissent moins Recycle Québec, notre mission, c'est l'éco-responsabilité. Mais plus précisément, c'est de réduire, récupérer, recycler, les fameux 3 R, c'est notre mission. Tout ça dans le but de faire de l'économie circulaire et de réduire le gaspillage des ressources. Puis aussi, lutter contre les changements climatiques. Alors, l'angle de l'éco-responsabilité de ma présentation, ça va être surtout en termes de prévention et saine gestion des matières résiduelles. J'avais d'autres choses à vous dire. C'est la première année qu'on collabore avec Rideau, puis c'est formidable parce que Rideau a fait de son engagement éco-responsable un engagement annuel, donc pour lequel vous avez une présentation à chaque année depuis 2022. Donc, en 2022, vous avez une présentation sur l'éco-responsabilité, en 2023, sur l'approvisionnement éco-responsable. Puis cette année, 2024, c'est le moment de parler davantage des aspects de collaboration. Alors, merci à Rideau de l'invitation, puis en espérant que vous ayez vous aussi fait vos gestes éco-responsables, il me semble que ce n'était pas toujours facile, mais bravo d'être là puis d'avoir participé à l'éco-responsabilité de l'événement, c'est vraiment un gage de succès. Alors, est-ce qu'on a du chemin à faire, vous diriez, une image vaut mille mots? Au Québec, tristement, on élimine encore des matières résiduelles. Quand je dis éliminer, c'est enfouir ou incinérer des matières. Et on parle de 5,7 millions de tonnes de matières qui ne prennent pas le chemin du bac de récupération ou autre stratégie. C'est de l'enfouissement. Puis de l'enfouissement et de l'incinération, c'est pas juste on se départit de matière, c'est des impacts sur l'eau, le sol, sur l'air, sur le voisinage, des odeurs, des matières qui ne seront pas du contenu recyclé dans d'autres produits, puis on se prive de ces matières-là parce qu'il faut extraire des matières premières. Alors, ce n'est pas juste on se débarrasse d'une matière, c'est un impact environnemental global, et puis tristement, on y contribue un peu au quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Le modèle économique derrière ça, si on se retrouve avec autant de déchets, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. On extrait de la matière, on l'utilise, on fait ce qu'on peut, on allonge la durée de vie tant qu'on peut, puis tristement, ça prend le chemin de l'élimination. La solution qu'on préconise par différents de nos programmes, nos activités chez Recycle Québec, c'est de vous amener en économie circulaire. Économie circulaire, si tout va bien, c'est qu'on réduit à la source, donc on extrait moins de matières premières, on les fait circuler en boucle, on réutilise, on réemploie, on recycle, on réintroduit dans le cycle. Et puis, en bout de course, on se trouve à moins éliminer. Alors, ça, c'est le modèle d'économie circulaire sur lequel nos activités sont dirigées. pour faire une différence, bien, vous pouvez tous le faire. Alors, c'est un peu le message que je vais vous apporter aujourd'hui. C'est que dans un modèle collaboratif, chacun de vous, dans vos établissements, à la maison ou au travail, vous avez la possibilité de vous poser des questions pour finir à alimenter l'économie circulaire plutôt que l'économie linéaire. Puis je vous amène quelques questions très, très concrètes dans le quotidien que vous pouvez vous poser pour commencer à changer les choses. Est-ce que vous payez pour vos matières résiduelles? Autrement dit, dans votre établissement, vous avez probablement un conteneur, un compacteur, un bac, un récupérateur de ci ou de ça qui passe à votre établissement, puis vous recevez peut-être une facture. Bien, si vous recevez une facture, c'est peut-être le bon moment d'aller voir qu'est-ce que vous mettez dans vos conteneurs, à quelle fréquence vous les videz, est-ce que vous mettez la bonne matière, est-ce que vous payez peut-être trop cher. Puis dans tous les cas, si vous avez un conteneur à déchets, vous avez certainement l'opportunité de réduire vos déchets, donc de réduire vos coûts. Alors, posez-vous la question, vous payez combien? Parce que par année, ça peut monter en des centaines de dollars, puis vous pouvez certainement faire des gestes de réduction. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que vous êtes conforme? Peu le savent, mais il y a certaines municipalités qui réglementent les matières résiduelles au fait que certaines matières recyclables ne puissent pas être mises aux déchets. Puis c'est le cas à Québec. Alors, si vous êtes à Québec, vous n'avez pas le droit de mettre des matières recyclables aux déchets. Alors, juste la conformité, bien, c'est peut-être le premier niveau à se demander. Est-ce que vous faites les choses correctement? Puis pour ça, bien, un petit appel à la municipalité peut vous aider à vous enligner, un, à être conforme. Vos rebuts viennent d'où? Je vous invite à faire l'exercice, c'est très pédagogique. Allez voir dans vos conteneurs, dans vos bacs à déchets. Oui, oui, allez voir dedans, c'est quoi qu'il y a là-dedans, puis qui fait en sorte que vous générez ça. Si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de pellicules souples, là, beaucoup de wrapping dans vos bacs, bien, c'est peut-être de vous demander c'est qui le fournisseur qui nous amène le wrapping, puis demander au fournisseur, hey, peux-tu le mettre ça dans d'autres choses? Peux-tu repartir avec? Peux-tu l'emballer autrement? Peux-tu réduire ça? Parce qu'en bout de course, vous vous trouvez à gérer matière des autres. Alors, une petite conversation avec eux pourrait faire déjà en sorte que vous allez, un, sensibiliser au fait qu'ils produisent de la matière qui est non recyclable, puis bien, vous allez réduire vos bacs, puis l'idée, ce n'est pas de remplir des bacs, c'est de réduire à la source. Alors, regardez dans vos bacs, vous allez peut-être apprendre plein de choses, puis avoir des belles conversations avec vos fournisseurs. Les services auxquels vous avez accès, beaucoup de municipalités ont des services dédiés, spéciaux pour les entreprises. Alors, un petit appel ou une petite visite sur le site Internet de la municipalité peut vous en apprendre quand même pas mal. Puis, est-ce que vous pouvez réduire, réutiliser, recycler mieux? La réponse est oui. Je vous confirme que vous pouvez le faire. Il y a plein de stratégies, puis je vais vous amener quelques pistes de solutions. Qui peut vous aider? Je vais vous en reparler. Il y a nous, mais il y a aussi plein d'organismes ou de ressources et votre municipalité qui peuvent vous donner des conseils. Qui performe? C'est bien de savoir dans votre région ou dans votre secteur d'activité, c'est qui les meilleurs, parce que peut-être que vous avez droit à plein d'expériences, réinventez pas la roue, il y a plein de choses que les autres font dans votre secteur ou dans votre municipalité, ou même votre voisin ou sur votre artère commerciale, qui fait déjà bien des choses pour lesquelles vous allez pouvoir reprendre des bons coups puis profiter de leurs services. Puis comment faire valoir vos bons coups, je vais y reparler, mais on a un programme d'attestation, de reconnaissance qui s'appelle « Ici, on recycle plus », qui est un des programmes de reconnaissance qui peut vous servir à, un, planifier bien vos choses et à le faire connaître. Puis par où commencer? Bien, j'ai un outil à vous proposer qui s'appelle le guide déchets zéro boulot 2.0 qu'on a sur notre site web, qui est un petit guide simple, vulgarisé, pas à pas, dans lequel vous pouvez vous poser les bonnes questions, dont celles que je vous ai montrées, mais aussi d'aller un peu plus loin, de structurer, de planifier vos activités. Soit dit en passant, si vous êtes intéressé, je vais mettre à disposition la présentation pour que vous puissiez l'avoir. Il y a des hyperliens partout, vous allez pouvoir cliquer là-dedans, ça va être bien pratique. En termes de collaboration maintenant, à qui vous pourriez parler de votre projet si vous vous engagez dans une démarche d'éco-responsabilité? Il me reste une minute, je vais accélérer. Vous pouvez parler, je vous l'ai dit, vos organismes municipaux, hyper important. Parlez à vos récupérateurs que vous avez déjà, ils ont peut-être d'autres services à vous offrir. Allez voir vos voisins, ils ont peut-être aussi des services qui pourraient vous servir. Donc, quand on mutualise les services, c'est-à-dire quand on partage les services avec notre entourage, vous allez pouvoir avoir droit à probablement des réductions de coûts. Faites appel à vos spécialistes en environnement. Vous connaissez probablement le Conseil québécois des événements éco-responsables. Ils ont des outils spécifiques à votre secteur d'activité. Sollicitez-les. Ça peut être des ressources vraiment précieuses. Vous avez des groupes, des associations, des fois les assos de rue commerciale ou encore vous êtes membre d'une chambre de commerce. Ou profitez de vos réseaux. Vous avez accès probablement à des services que vous ne connaissez pas qui peuvent vous aider dans votre démarche d'éco-responsabilité. Il y a également des possibilités d'aide financière si vous avez des projets. Parlez à vos fournisseurs, vos partenaires, parlez à votre responsable des achats, impliquez votre personnel, hyper important, puis on va en reparler avec notre panel. puis vos clients, mettez-les dans le coup de votre démarche d'éco-responsabilité. Là, je vais vite parce qu'on m'a dit qu'il me restait là, peut-être 30 secondes. Mais par la RSC Québec aussi, on est là, puis on peut vous aider. Parce qu'on a plein de... On a des capsules d'infos, des guides, on a des capsules vidéo, notamment sur l'usage unique, qui met en vedette d'ailleurs en partie Lara qui est là. On a de l'aide financière. Suivez nos infolettes pour savoir les prochaines aides financières qui vont arriver. Puis je vous parlais aussi du programme d'attestation. Ici, on recycle plus. Là, je suis allé super vite, il y a plein de choses, mais vous allez pouvoir la revoir, la présentation, c'est l'avantage. Alors voilà. J'arrête là parce que je veux qu'on laisse de la place à nos invités. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau parce que je ne peux plus déshydrater. Alors, parce qu'on les a avec nous, on va pouvoir profiter de leur expertise. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des faits concrets.
Notre expérience.
Oui, c'est votre expérience qui compte maintenant. Alors, bien, rapidement, moi, ce que j'aimerais vous entendre, puis on va commencer par Ludovic. Ça a été quoi le projet de Beet et Betterave? Comment c'est né? C'était quoi la vision? Puis on en est où maintenant, avant d'aller plus loin? Ouais.
Le Beet et Betterave, c'est un café-bar-spectacle qui est devenu une brasserie aussi après les années que j'ai parti avec ma conjointe. Puis c'est un projet qu'on a parti à la campagne dans les cantons de l'Est à Frédéricksburg. Puis l'idée, c'était de faire un lieu de diffusion, puis aussi un lieu de rassemblement, puis d'intégrer tout verticalement un peu les aspects de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, si on fait les légumes du jardin sur place, on fait la bière sur place, on fait toute la transformation sur place, on habite sur place. C'est un peu comme, fait de rendre ça le plus efficace possible, tu sais, d'un point de vue, oui, écologique, mais aussi d'un point de vue comme financier, parce qu'en rendant tous les aspects comme ça efficaces, mais ça fait que ça devient plus rentable aussi. T'sais.
Génial, merci. On ira plus loin dans les détails, mais merci beaucoup. Lara, le projet Lion d'or, réduction d'usage unique et tout ça, ça s'est né comment? C'était quoi cette vision-là au départ?
Bien, c'est un projet qu'on souhaitait faire depuis très, très longtemps. Seulement, on manque toujours cruellement de temps. Hein, quand on organise plus de 200 spectacles par année et qu'on a une centaine d'événements corporatifs, privés, il ne reste pas grand temps pour organiser d'autres choses. Donc, est arrivé pile à point la pandémie qui nous a accordé le luxe du temps. Donc, au début, on a hésité à se rouler en boule puis juste attendre que ça passe. Puis finalement, on a dit, on pourrait peut-être faire quelque chose d'utile. Et donc, c'est ça. On s'est mis à juste pitcher, faire une liste, en fait, de tout ce qu'on voulait éliminer, tout ce qu'on voulait changer depuis longtemps. Il y avait des choses dont on était déjà au courant et tout ça. Puis aussi à chercher des solutions. Comment on pourrait organiser, par exemple, je ne sais pas moi, éviter complètement les bouteilles d'eau. Par quoi on remplace ça, des bouteilles d'eau? Et donc, on est tombé, quand on s'est mis à chercher des sources de financement, on est tombé sur un appel de proposition de Recyc Québec qui s'appelait Retour à la source, qui visait principalement l'élimination et la réduction du plastique à usage unique. Puis c'était vraiment pile sur ce qu'on était en lignée, là, mettons, là, c'était un très, très beau hasard. Et donc, on a travaillé comme des fous pour remplir toutes les conditions. Et on l'a obtenu. Donc, ça nous a permis d'aller de l'avant, de réduire le plastique à usage unique, donc les bouteilles d'eau, les gobelets pour les parties, là, les gobelets en plastique qu'on a changés pour des éco-copes. C'est ça, écoute, plein de belles mesures comme ça qui nous ont permis de vraiment
super.
Aller de l'avant avec nos rêves.
Fait que vous êtes dans deux démarches d'éco-responsabilité, vous avez quand même des contextes différents, en ville, un peu plus en région. Moi, j'aimerais vous entendre sur comment vous avez mis à profit vos réseaux de collaborateurs dans votre démarche éco-responsable. Est-ce que qui vous avez sollicité, vos ressources clés? Ça a été quoi? On va commencer par Ludovic. Ça a été quoi ton modèle collaboratif, ton écosystème?
Bien, l'écosystème, nous, ça reste qu'il est très comme intégré à l'entreprise, là, parce qu'on produit la majeure partie des choses qu'on utilise. Puis ça fait c'est plus comme au premier tiers. T'sais, c'est des matières premières qu'on achète. Là. Pour les jardins, on achète les graines, exemple. Pour les cochons, on achète des carcasses quand on ne les fait pas. T'sais, même chose pour la bière, on achète du grain. T'sais. Puis sinon, on essaie de faire attention aussi que quand on n'est pas capable de le faire nous-mêmes ou on n'a pas le temps d'aller dans un fournisseur local. Souvent, il y a d'autres producteurs locaux. Même chose pour les menus. On a un restaurant aussi. C'est les légumes, c'est des légumes de saison. Tout ça. Puis tout le temps d'y aller, de ne pas être dogmatique avec ça. Des fois, si on veut absolument avoir un certain produit, de comprendre que
si tu n'es pas capable de le faire, puis tu n'as pas trouvé de fournisseur très local, tu vas un petit peu plus loin jusqu'à temps que tu le trouves, puis que c'est correct aussi. Il ne faut pas commencer à se flageller si tu es allé chercher quelque chose trop loin. Puis aussi que même des fois, si le producteur n'est pas local, si le fournisseur l'est, ça aussi, ça rentre dans une idée comme circulaire. Parce que si tu achètes ton produit ou whatever que tu as besoin à l'épicerie au coin de la rue, il a travaillé quand même, il s'est moins promené aussi. T'sais. Fait que là, tu vois, il y a différents degrés d'efficacité qu'on pourrait voir, mais je te dirais que c'est ça un peu notre point. On a les fermes du coin, les épiceries du coin le plus possible, parce qu'en même temps, ça reste que c'est des. En plus, c'est des clients à nous. Fait que ça fait comme le circuit va comme ça.
Bien intéressant. Donc, là, dans ce concept-là, vous êtes producteur. Donc, à la limite, tout ce qui est à la source, c'est votre force parce que vous êtes capable de gérer votre production. Vous êtes un producteur en même temps qu'un utilisateur de service.
Oui. Puis aussi, on en avait parlé dans notre pré-rencontre. Un des points que là, avec l'inflation qu'on vit en ce moment, plus que tu es bas dans la chaîne, moins l'inflation te touche parce que plus que c'est toi qui gères les étapes. T'sais. Fait que si le prix de ta matière augmente de 10 % à la fin, toi, c'est tous tes markups que tu fais, fait qu'à la fin, ton prix de vente, tu es capable de rester compétitif. Là.
Non, hyper intéressant. Puis, de votre côté, Lara, au Lion d'Or, votre réseau de collaboration, ça a été quoi vos collaborateurs clés pour la naissance du projet?
Bien, déjà à l'interne, je veux dire, on était trois au départ, donc un des gestionnaires, deux employés. Et puis, ben, tranquillement, on a voulu intégrer très rapidement d'autres membres de l'équipe, tâter le terrain auprès d'eux, leur montrer, leur exposer nos pistes de solutions, les valider auprès d'eux. C'est ça. Donc, déjà à l'interne, c'était ça. Ensuite, ben, on a été chercher de l'aide aussi pour monter la demande, donc le Réseau québécois des femmes en environnement, qui a été vraiment très, très utile. Donc, voulant impliquer nos employés, ben, on les a fait venir pour une formation. Donc, entreprendre comme les bases, en fait, de l'éco-responsabilité. Et puis, on a été surpris de voir que les employés étaient vraiment partants, vraiment tout le monde embarqué et tout. Alors, ça nous a encouragés à continuer à aller de l'avant. Ensuite de ça, ben, un peu plus à l'externe, on a eu des partenaires en affaires depuis longtemps. Place Pop Desjardins, n'hésitez pas à demander. et puis Boréal, qui est notre distributeur de bière depuis toujours, qui ont financé nos EcoCup, donc en commandite. Donc, c'est ça. Voilà.
Génial. Donc, j'entends que dans vos deux cas, votre personnel, ça a été des leviers. Donc, de mettre à profit l'énergie de votre personnel dans votre projet, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir votre vision, vous les avez intégrés. Comment ça enrichit vos projets, vous diriez, le fait d'impliquer le personnel dans votre démarche puis de communiquer votre projet à l'extérieur? Est-ce que ça a eu un effet?
Oui, parce que veux pas, quand tu intègres ton personnel, il faut que tu les formes, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a rien de plus, tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, c'est de stagner personnellement. Fait que quand tu amènes des projets comme ça, qu'il faut qu'ils développent une différente expertise, ça leur donne un sentiment d'appartenance aussi. C'est sûr que nous, on est vraiment une plus petite équipe, exemple, que le Lion d'Or. Puis je te dirais même le décisionnel aussi est très simple. C'est moi qui décide. Dans le sens, j'ai pas comme. Si on veut aller dans une direction, ça se fait très rapidement. Là, puis même qu'on en parlait. Toutes les directions qu'on a prises, des fois, c'était un peu naïvement. Même, on s'est dit, OK, on va faire ça comme ça parce que j'ai l'impression que c'est le même, ça va, parce qu'on n'avait pas nécessairement de pensée comme passée par rapport à comment faire les choses. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites comme si on était chez nous, là, un peu, là, que je me dis, OK, bon, on va recycler ça. Puis non, moi, j'aime pas ça, les bouteilles en plastique depuis le départ, mais c'est juste parce que je faisais ça chez moi. C'était pas tant dans une démarche aussi claire qu'inscrite dans un. C'est un peu comme dans un programme, là. Ouais, c'est ça. C'était plus organique un peu, là, comme ça. Puis veux pas, ça fait que quand tu as une pensée forte au cœur de ton entreprise, puis tu t'entoures d'employés qui ont la même pensée, mais ça fait que tout va mieux aussi. Parce qu'eux, ils s'identifient à ce que tu fais. Ils sont là pour cette raison-là aussi. T'sais.
Ça forge l'identité même de l'entreprise que de les impliquer dès le départ.
C'est la même chose pour la clientèle, parce que c'est un tout un peu, attendez, je cherche mon mot, une expérience client. Fait que toutes ces petites choses-là, ils sentent qu'est-ce que ta démarche globale. Fait que, même s'ils viennent juste prendre un café ou venir voir un spectacle, ils sentent ta démarche globale, puis ça rentre dans leur psyché, que pourquoi qu'ils vont là. C'est pas juste, bon, OK, je m'en vais voir Paul Piché, mais tu sais, pourquoi je vais là au lieu de là ou là? Mais là, ils font attention à ça, puis je me rappelle de ça. Même si des fois, ça peut être choquant, l'expérience, je sais pas, tu vas là-bas, puis je te donne juste une fourchette, tu veux ton couteau, il faut que tu me le demandes, parce que je vais pas laver un couteau pour rien, tu sais. Mais tu sais, au début, ça le choque, mais ça fait qu'il s'en rappelle après, parce que l'expérience a été différente, tu sais.
Nous, un peu dans le même sens, là, on a développé une charte éco-responsable qui déjà illustre notre engagement, mais qui aussi dit aux clients, en fait, cette charte-là, elle est annexée à nos contrats de location de la salle. Et donc, ça informe déjà de ce que nous, on fait. Ça dit à nos clients, artistes et producteurs, voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous faites en faisant votre événement chez nous. Et puis, pour les événements privés, corporatifs, là, il y a toute une panoplie d'éléments là, qu'on décourage fortement d'emmener. Tout ce qui est babioles, plastique à usage unique, jetable, décoration, bannière, berque. C'est ça. Et puis, on va jusqu'à menacer d'une surcharge financière s'ils souhaitent vraiment emmener... Donc, leur cochonnerie. Et puis, parallèlement à ça, on est capable de fournir aussi, peut-être des alternatives, une liste là, de fournisseurs, des fleuristes, éco-responsables, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ça donne aussi des solutions. Ça nomme les problèmes, mais ça donne aussi des solutions. Mm-hmm. Donc, on implique les clients directement aussi, tant qu'à faire.
Fait que j'entends que cohérence interne et image externe, c'est hyper important. Puis ça fait partie des deux, dans votre cas, de votre expérience extérieure. Vous êtes reconnu pour ça. J'aimerais vous entendre maintenant sur, parce que vous avez des salles, donc vous avez des artistes, vous avez des organisateurs. Comment vous avez géré le fait qu'il y a des événements qui se tiennent chez vous? Comment vous passez ce message-là? Puis est-ce que vous vivez des fois faites de la pédagogie active auprès des artistes ou encore des gestionnaires externes qui font des événements chez vous?
Oui, je te dirais. Bien, nous, on a un peu comme le Lion d'Or, on a un restaurant. Fait que ça facilite bien des aspects parce que tout le concept un peu de réutiliser l'infrastructure, c'est inhérent dans un restaurant. Par exemple, les artistes, quand ils viennent chez nous, leur rider, je ne le fais pas exactement. Mais ils peuvent prendre qu'est-ce qu'ils veulent dans le restaurant. Puis, ils peuvent prendre qu'est-ce qu'ils veulent à la quantité qu'ils veulent, mais il faut qu'ils le demandent. Parce que des fois... On se rendait compte. Moi, dans mon expérience passée, là, en tant qu'artiste, c'est que tu arrives des fois, tu veux 32 sandwichs, 72 ça, puis tu en utilises 4, puis on lui met tout le reste au vidange. Puis là, cette affaire-là, ça m'énervait un peu. Fait que là, je me dis, tu peux avoir qu'est-ce que tu veux dans toute notre... Mais on a un restaurant, tu sais. On a comme une carte de vin, une carte d'alcool, une carte pour les repas aussi. Mais c'est là-dedans, il faut que tu le choisisses. Puis tu peux en avoir autant que tu veux, mais... Tu le choisisses là-dedans. Fait que ce côté-là, c'est pas commun, je pense, mais nous, ça a été... Il n'y a jamais personne qui s'est plaint. Là,
c'est sûr que plus on fournit de trucs à l'interne, le moins il y a de camions qui se rendent, il y a moins de voyagements, il y a moins de contenants, d'emballages. Donc, c'est... Ouais,
ça n'a pas été difficile comme instaurer ça. T'sais, on le fait depuis le début.
Pas de bras à tordre.
Non, il n'y a personne qui m'en a jamais reparlé. Qui se dit, ouais, c'est bizarre chez vous, j'ai pas, je sais pas moi, ma bouteille de telle affaire. Là.
Ouais, nous, ça nous faisait peur au début, ça, de dire aux clients, non, tu ne peux plus acheter ta bouteille d'eau. En fait, là, on vend de l'eau embouteillée qui est maison, okay, par un système de triple filtration et de gazéification de l'eau. Donc, on continue de vendre de l'eau, mais ce n'est pas de la Montpellier ou elle ne vient pas de France. Elle vient de Montréal. Mais c'est ça. Donc, on la vend à un moindre coût. Il y a une profitabilité parce que les clients sont gagnants. Ils payent moins cher pour leur eau. Et puis nous, il y a une rentabilité avec ça. Puis ça génère aucun déchet, sauf peut-être deux filtres par année. Donc, déjà, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Beaucoup de déchets, de bouteilles de plastique évitées, énormément.
Ben c'est ça, donc vous le voyez.
Des milliers par année.
Donc, quand je disais tantôt, allez voir dans vos bacs, là, on le voit dans vos bacs, il y en a moins. Là.
Ah ouais, ben il n'y en a plus. Il n'y en a juste plus. Notre laveuse, elle roule peut-être plus là, pour laver les bouteilles d'eau, mais...
Puis de votre côté, est-ce que la réduction des matières, donc moins de matières à usage unique et tout, est-ce que ça paraît?
Oui, mais tu sais, nous, depuis le départ, on est un peu comme ça. Fait qu'on n'a pas tant vu une diminution, à part peut-être le... Parce que c'est une idée d'infrastructure un peu. Tu sais, il faut avoir une vision comme au moyen long terme des choses. Parce que généralement, pour être capable d'éliminer un objet comme qui crée des déchets, il faut que tu aies une machine pour la faire à ta place. Comme, alors, au lieu d'acheter, c'est plus facile d'acheter des bouteilles d'eau puis acheter des sacs de glace qu'avoir une machine qui fait de la glace ou avoir une machine qui embouteille. Fait qu'il faut que tu aies une vision d'au moins 5-10 ans pour être capable de voir ton retour en investissement qui est là, qui va être présent. À long terme, tu gagnes sur toute la ligne. Il n'y a aucune perte là-dedans. C'est juste qu'il faut que tu te prennes pour acquis que ce n'est pas la semaine prochaine que tu vas avoir ton retour. T'sais. Fait que pour les déchets, nous, de base, on n'a jamais eu beaucoup. Je te dirais même que on a un restaurant à la salle, on fait des 150 dîners, tout ça, puis on run à deux poubelles de maison. Là, fait que, on le voit clairement qu'on n'en crée pas tant que ça.
Donc, dès le départ, la réduction faisait partie de votre stratégie. C'était déjà ancré. Là. Ouais. Wow.
Mais encore là, c'était beaucoup... Oui, il y a le côté éthique qui est important, mais à la base, c'était un côté d'efficacité qu'on cherchait. On se disait, c'est plus efficace, tout court, le faire bien comme ça au départ que de... C'était surtout pour ça. Oui, il y a le côté éthique de le recyclage, c'est bien, puis tout, mais c'était plus rentable faire ça.
C'est vraiment intéressant. Si on vient à l'idée de la collaboration, est-ce que le municipal a fait partie de vos acteurs clés? Est-ce que vous avez eu à gérer quelconque avec des éléments avec le municipal, la municipalité que vous a-t-il aidé? Est-ce que vous avez eu quelque chose à faire avec
c'est votre petit Frelichburg, là. Et pas vraiment, mais pas parce qu'ils ne peuvent pas. Là. Il n'y a pas d'argent dans la municipalité.
Bien, c'est Grand Montréal, mais j'avoue qu'on n'a pas fait tant appel au palier municipal. On a contacté notre élu qui était Manon Massé, donc on avait de la chance. Les fonds discrétionnaires, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à demander. Steven Guilbeault, puis le ministère de l'Environnement. Donc, on a contacté ces trois-là, mais la ville, on n'a pas... ça reste une porte à ouvrir, on va dire.
L'idée, c'est de solliciter tous les paliers, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est
de commencer,
ça.
Ben, tant mieux, c'est le municipal, mais de commencer au municipal, ensuite peut-être au provincial, ouais. Peut-être au fédéral, mais en fait, d'aller chercher vos alliés. Puis je pense que vous avez fait bien votre travail d'aller chercher vos alliés. On y reviendra sur d'autres éléments de collaboration, mais on pourrait discuter maintenant de plus enjeux bénéfices parce qu'on a déjà un peu parlé de la question de rentabilité environnementale, rentabilité économique. Je serais curieux de vous entendre sur les défis que vous avez eu à relever, les choses, dire, oh, pas l'air, on l'avait pas vu venir, comment on va solutionner cet élément-là? Est-ce qu'il y a eu comme des surprises dans votre démarche ou des éléments de dire, ouais, ça va falloir travailler un peu plus fort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête?
Mais encore là, ça revient un peu comme sur le même point que je disais, c'est beaucoup un truc d'infrastructure. Là, fait que des fois, il ne faut pas... c'est important cette vision-là, mais il ne faut pas faire faillite pour ça, pour autant. Là. Fait que des fois, de prendre les bons...
Rester rentable. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on fait de l'environnement qu'on perd de l'argent.
C'est hein? Ça. Puis okay. Aussi, c'est que de le faire au bon moment, puis t'es mieux de faire une petite comme étape, puis de la faire tout le temps, que de commencer à instaurer comme des nouvelles, des programmes que tu veux faire, mais dès que ça va aller un peu mal, tu vas les mettre au vidange parce que tu n'es pas capable de les supporter. T'sais. Fait que tu es mieux d'attendre puis de faire les moves que tu vas être capable de supporter à long terme pour vrai.
C'est là où nos projets diffèrent beaucoup, ouais. Parce que nous, on devait réaliser le tout en un certain temps. Donc, je dirais que l'important pour nous, ça a été vraiment de penser de manière très structurée à où est-ce qu'on allait mettre la machine à filtrer l'eau. Tu sais, par exemple, bon, pour couler des bouteilles d'eau en plein service, ça a l'air con, mais si tu la places mal, t'es pogné avec après. Puis, faut que ça reste agréable puis ergonomique. Hein. Puis, très agréable surtout pour les employés. Parce que si les gestes de tous les jours du quotidien qui sont nouveaux, hein, parce qu'il y a toute une adaptation, si c'est pas agréable, ben ton monde va peut-être décrocher ou ils vont tourner les coins ronds ou
ils vont pas le faire.
Ou ils vont pas le faire, c'est ça, tu sais. Mais ouais, c'est ça.
Il faut que ça soit durable dans l'application.
Oui, tout à fait, ouais. D'où l'importance, je pense, de aussi faire le point avec les employés au début, puis de s'ajuster, puis de dire, OK, ben, il y a quelque chose qui... OK, ben, on va acheter un autre frigo, tu sais, pour stacher l'eau qui est pré-embouteillée pour ne pas devoir couler des bouteilles d'eau en plein rush, tu sais. Puis finalement, revenir au même geste de t'ouvres la porte du frigo, puis tu prends ta bouteille d'eau, puis c'est plus une bouteille en plastique, c'est une bouteille en verre maintenant, tu sais. Mais des petites adaptations comme ça qui sont... les employés, ils sont reconnaissants, puis ils deviennent fiers aussi de participer à ça.
Parce qu'on voit la différence. Au jour le jour, on la voit, la différence.
Ah oui, oui, incroyablement.
Puis parlant d'optimisation, on parlait de la glace. C'était ton, en préparation tantôt.
Oui, tu sais qu'une machine, au lieu d'acheter des sacs de glace, la machine, ça se paye facilement. Là, puis c'est juste encore là, il faut que tu la places à la bonne place, d'expliquer aux gens comment elle fonctionne. T'sais, mais tu as tout le temps un bon retour à faire des moves comme ça. T'sais.
C'est ça, acheter de la fourniture.
Oui, mais tu sais, acheter des sacs tout le temps.
C'est du déplacement, c'est des sacs.
C'est sur le portefeuille, c'est plus facile. Des fois, tu ne le vois pas, comme tu parlais un peu de la poubelle. Tu es là, bon, si j'achète 150$ de glace par semaine, c'est juste 150$. Mais là, finalement, tu te rends compte qu'au bout de ton année, ta machine à glace, tu l'as payée en 2 ans, puis c'est fini. Puis tu n'as payé plus après. Là, c'est tout le temps des bons moves à faire.
Devenir autonome sur certaines productions. Ça peut être rentable. Donc, produire de l'eau, produire de la glace. Ouais. Puis finalement, en bout de course, bien, on réduit les contenants, on réduit le transport. Donc, on a un impact environnemental positif. Puis en plus, on a économisé.
Oui, ouais. même chose pour... ça, c'est peut-être de quoi qui va plus comme parler, parce qu'encore là, on a une historique de restauration, nous. Mais tu sais, vendre des bouteilles au lieu de vendre des produits en fût, ça va être tout le temps plus rentable de vendre des produits en fût pour l'alcool, par exemple, dans un spectacle. C'est sûr que tu as des meilleurs prix, tu as des prix de vrac, mais il faut que tu aies l'installation en fût. Fait que là encore, là, ça revient aux mêmes questions. Bon, c'est-tu là que je mets mon 5 000 $ d'installation? Mais il va revenir vite. Puis c'est bien plus écologique d'un système en vrac qu'un système comme en portion individuelle, ça c'est sûr. T'sais.
Je dirais un truc qui coince par rapport aux problèmes et aux enjeux, là, c'est vraiment les îlots de tri. Je ne sais pas si tout le monde expérimente la même chose, là, mais les îlots de tri, tu as beau les mettre, on dirait qu'il y a une espèce de... Ça dépend des groupes, là, ça dépend des gens qui nous visitent, mais c'est souvent là, qu'on doit se mettre les mains dedans puis refaire le tri là, des îlots nous-mêmes, là, malheureusement.
Ah, la séparation,
ouais, la séparation, malgré qu'on a de l'affichage et tout, 3 contenants, c'est ça. Ça marche pas très bien.
C'est ça, on arrive à la question de la communication. Ouais. Finalement, communiquer votre projet. Il y a plein de monde qui utilise, qui passe par chez vous. Il faut que vous communiquiez souvent. Est-ce que vous avez comme une stratégie de communication? Ça a l'air organique chez vous, mais est-ce que vous avez dû penser à, OK, il faut communiquer nos affaires maintenant?
Mais nous, c'est quand même ça. Je suis tout le temps là. Fait que c'est quand même assez simple, communiquer les directives autant aux clients qu'aux employés. Puis là, au fil du temps, c'est sûr que les premières années, chaque petit quirk que tu fais différemment, il faut que tu l'expliques, mais après un certain temps, il y a un récurrent de clients qui vient puis qu'ils savent que ça fonctionne comme ça chez vous. Puis là, l'affaire qui est drôle, c'est que tu peux assez rapidement identifier les clients que c'est la première fois qu'ils viennent chez vous. Là. Mais je te dirais que oui, ça se fait quand même. On n'a pas une pancarte qui explique chacune affaire. Même affaire pour les artistes. Là, la plupart des artistes sont revenus souvent. Qu'ils savent comment ça fonctionne chez nous, il n'y a pas de questionnement. Puis si l'artiste n'est pas, c'est la première fois qu'il vient, mais souvent, soit son directeur de tournée, lui, il est déjà venu. Fait que lui, il peut comme leur expliquer comment ça fonctionne chez moi.
Il y a des ambassadeurs qui ont parlé en bien de Beat et Betterave et te dire aussi, voici comment ça marche quand on va chez eux.
Oui, mais tu sais, chaque place, ça, c'est façon différente de fonctionner. Fait que c'est pas juste unique à moi, là, puis par rapport à ce sujet-là, mais... C'est oui, le monde. Au fil du temps, le monde, il s'habitue. Si tu tiens ton bout et tu es capable de le tenir, le monde, ils vont se mouler à ton truc.
Oui, c'est ça. Nous, on a installé dans les loges des artistes puis dans le corridor du Lion d'Or des remplisseuses de gourdes sans contact. Donc, encore une fois, pour pallier aux bouteilles d'eau, pour que les productions n'amènent plus leur craft puis leurs bouteilles d'eau en plastique. Il y a de l'eau dans les loges, puis amenez vos gourdes, puis sinon, on fournit des éco-copes.
Excellent. Ben, on a parlé des bénéfices, on a parlé de communication. J'aimerais ça vous entendre aussi sur la question de réduire les temps, les transports, donc de créer de la boucle courte Dans votre cas, c'est plus facile parce que vous, des fois, vous produisez directement sur place.
Oui, puis tu sais qu'on produit toutes les choses sur place. Puis aussi, vu qu'on est comme on est une brasserie, je fais des livraisons. Fait que, tu sais, c'est quand même relativement facile de, quand il faut aller chercher des choses, disons, à Montréal, on livre en même temps. Fait que l'idée, c'est de remplir le camion pour y aller, le vider, puis le remplir pour revenir. Fait que, tu sais, ça fait que le transport, et on l'utilise, le camion, comme une fois pour faire deux choses. T'sais. Parce que là, c'est sûr que pour les tournées puis les événements, on n'a pas le choix que l'artiste, faut qu'il prenne un camion puis qu'il vienne chez nous. Là, c'est ce que je veux bien, mais sinon, nous, tous les fournisseurs sont relativement locaux puis on fait beaucoup de collaborations avec d'autres entreprises pour les livraisons, aller chercher les choses aussi.
Génial. Je ne peux pas me vanter de tout à fait la même chose, mais...
Mais peut-être que dans le choix des fournisseurs, est-ce que vous avez fait une
attention particulière? Oui, ben c'est sûr qu'on essaie de... Oui, oui, de plus en plus local, là, c'est dans nos, comment dire, nos critères, là. Oui, oui.
Ça oblige des choix aussi.
Tout à fait.
Ben c'est ça. Donc, est-ce qu'on se prive de certains fournisseurs et donc on fait des choix sur la base, ben on sélectionne parce qu'il est plus proche?
Oui.
T'as payé la livraison, là? Des fois, tu le vois pas dans la facture, mais t'as payé tout le temps.
Mais des fois aussi, c'est ça, c'est de commander en plus grande quantité pour éviter un nombre de livraisons X.
Une fois 6 mois au lieu d'une fois par deux semaines.
Oui. Une chose qui est bien, on a un jardin sur le toit. Donc, ça, c'est une chose qui est un peu typique là, à Montréal. Donc, des fines herbes, des légumes, tout ça, dont on approvisionne le restaurant au petit extra, donc pendant au moins la période estivale. Donc, on contribue de cette manière-là.
Mais c'est d'autres exemples que réduire les boucles, réduire le transport, c'est non seulement des avantages environnementaux, mais en plus, vous avez réussi à générer des économies. Donc, un autre exemple que c'est tout à fait compatible et même souhaitable. Pas rien que dans votre modèle d'affaires, c'est même exportable, votre pratique, finalement. Mm. Ben, c'est vraiment trippant.
Et reproductible.
Oui, c'est reproductible. C'est formidable. Fait qu'on a parlé des enjeux bénéfices. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? Hein? Parfait, parfait, parfait. Ben, j'ai goût de vous entendre sur qu'est-ce qui, justement, on parle de reproductibilité. Il y a plein de gens qui doivent se dire, on peut peut-être faire ça, nous autres aussi. Qu'est-ce qui serait de l'ordre du conseil, de la suggestion ou de la bonne pratique que vous pourriez dire, mais ça, vous devriez faire ça. En fait, si tout le monde se dit, on veut faire nous aussi une démarche d'éco-responsabilité, on veut s'engager là-dedans, on fait quoi? Quelle suggestion, conseil vous auriez à faire à des gens qui veulent s'embarquer dans une démarche d'éco-responsabilité?
Mais là, c'est sûr que là, je ne peux pas dire au monde commencer à faire des cochons. Là, fait que,
peut-être pas.
Mais je te dirais que généralement, la différence entre le packaging individuel puis vrac, il y a un gros point qui se fait là, puis que tout le monde peut faire dans plein de facettes, autant de la facette de l'alcool. Parce que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de diffuseurs, ils n'ont pas des restaurants. Là, fait que, dans ce côté-là. Pis,
les produits ménagers déjà.
Oui, les produits ménagers, tout ça, l'achat de gros, l'achat de vrac, tout ça. Puis ça, souvent, juste avec un petit peu de formation, ça va assez vite que, même pour les employés, des fois, c'est plus agréable. Là, mais il faut encore là, comme tu expliquais, il faut que l'installation, ça soit cohérent aussi. Il ne faut pas juste que tu leur pitches ça dans les mains. OK, salut, on fait ça demain, master, tout ça. Faut que tu leur montres, puis que tu sois présent, puis que tu sois à l'écoute, que s'ils disent, finalement, c'est moi qui le fais, cette affaire-là, puis cet aspect-là, c'est pas full ergonomique, puis ça va pas super bien. Faut que tu sois à l'écoute de ça aussi.
Mais ça, c'est un conseil que je trouve judicieux, dans le fond, c'est parce que des fois, ça coince, quand tu instaures quelque chose de nouveau, les façons de faire changent, ça coince, il y en a qui résistent, on n'a pas tous la même capacité d'adaptation, je pense, devant le changement. Et puis, il y en a que c'est ça, ça se braque. Mais il faut leur donner du lousse, il faut donner le temps parce que de la patience, je pense avoir un peu de patience. Les gens finissent par s'adapter, puis par intégrer les nouvelles façons de faire. Puis après ça, ils ne s'en rappellent plus comment on faisait avant. Fait que c'est très positif, je pense. C'est juste qu'il faut être un peu patient. Ouais.
Ça peut devenir naturel. C'est pas nécessairement de l'ordre de la
vie. Naturel. Ça devient c'est qu'on oublie complètement qu'est-ce qu'on faisait avant. C'est vraiment.
Tu t'en rappelles, puis tu te rends compte comme.
Tu dis,
c'est
quoi
que ça a pris tant de temps avant que je fasse ce changement.
C'était débile, j'étais débile. C'est ça. Sinon, un conseil que j'aurais à donner, là, c'est. Si vous avez à mandater quelqu'un pour porter un projet de virage éco-responsable, choisissez déjà quelqu'un qui a le feu, qui a la flamme, qui est super passionné, qui communique finalement sa passion aux autres. si vous prenez un consultant externe, là, vous n'allez peut-être pas m'aimer, je ne sais pas. Mais dans le sens que je pense que c'est important que le consultant ne fasse pas toute la job, mais qu'il se mette en équipe avec quelqu'un, peut-être pas non plus juste un gestionnaire, quelqu'un qui est dans le bureau, quelqu'un qui est deux pieds sur le terrain, là, qui va pouvoir te dire « ça ne marchera pas, ça ». C'est pas la bonne chose à faire, ou il ne faut pas la faire de cette façon-là. Ou, en tout cas, vraiment, là, de faire un noyau, là, c'est super important, je pense, de dire mais mettez-vous ensemble avec quelqu'un qui est sur le terrain, ça va faire toute la différence. Parce que c'est ça, il y a des changements qu'on voulait faire, il y a des mesures qu'on a implantées, qu'on doutait à l'emplacement, ou qu'est-ce qu'on fait. Ben, heureusement qu'on s'est questionné, parce que si on l'avait fait tout de go, il y a des trucs qu'on aurait très certainement regrettés, je pense. Fait
que se faire aider, ça peut être un bon conseil, finalement.
Ah ouais,
on ne peut pas faire tout seul.
Finalement. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, collaborer avec les gens.
Chercher l'expertise. Si on a le temps, qu'on a le loisir, on peut implanter notre propre vision, puis faire la gestion de personnel, la formation et tout. Si on peut le faire, tant mieux. Mais on peut aussi confier quelques tâches à l'externe, de là, se l'approprier par la suite.
Oui, exactement, c'est ça.
Excellent, excellent. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait bien parler? Bien, en termes d'influence, parce que là, bon, vous parlez de votre expérience, on entend parler de vous, vous devenez comme des ambassadeurs, des co-responsabilités. Est-ce que vous avez vu que vous avez réussi à influencer vos collaborateurs, faites réfléchir des fournisseurs, ou faites même changer carrément les comportements de votre entourage? Est-ce que vous l'avez remarqué, que vous avez déjà un certain pouvoir d'influence, sinon peut-être à venir?
Il y en a un peu, là, tu sais, dans des salles, disons, dans le SMAC, un peu, il y en a un peu qui me posaient des questions. Ça, tu fais ça comment? Ça, tu fais ça comme, tu sais, puis ça, je pense que c'est dans n'importe quelle sphère, là, le monde, il se parle. Voir c'est influencé, parce que chaque, tu sais, lieu de diffusion, il y a tellement comme une réalité unique, là, que c'est quand même difficile, tu sais, juste prendre un one size fit all, puis dire c'est comme ça qu'on fait que ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que peut-être que dans leur démarche, ils ont fait d'autres comme actions que moi, mais ils
on
ont
pas
pensé,
toujours au courant de
qu'est-ce que vous avez fait,
ça.
Puis ils ont fait leur propre action dans leur propre réalité avec leurs propres contraintes. Parce que je pense pas que, tu sais, bien spécifiquement, juste certaines actions, mais c'est plus dans la démarche globale, tu sais.
Oui, nous, grâce à la charte d'engagement éco-responsable, on a beaucoup de clients qui communiquent avec nous, puis... c'est drôle, je pense que juste le fait de passer à travers les différents points, dire « Ah, d'amener des ballons, tu sais, ah, shit, des ballons, c'est has-been, tu sais, ça se fait plus ben, tu sais. » Ils réalisent finalement par eux-mêmes, tu sais, que est-ce que c'est vraiment nécessaire, tu sais, je veux dire.
On s'imagine pas que l'usage unique, ça va aussi jusque-là, c'est pas juste des contenants, des bouteilles d'eau,
non,
là.
Les confettis sur les tables et tout, tu sais, quand on leur explique, on prend le temps de leur expliquer pourquoi. C'est juste bête. ils réalisent, puis c'est ça. Il y en a, ça peut coincer un peu, mais la plupart du monde réagit vraiment, vraiment positivement. Ça, c'est un des trucs positifs que je retiens de tout ça, c'est que j'avais plus peur de la réaction des gens. Puis finalement, tout le monde est pas mal partant et willing, c'est super positif, là.
Pas trop de longs discours pour convaincre les gens avec un peu d'explication.
Non.
Ils saisissent le fondement de votre vision, puis embarquent.
Il ne faut pas être contre la vertu.
Non, c'est ça. Puis on le fait, je pense, de manière de plus en plus assumée, puis ce qui fait que les gens, peut-être que ça les convainc plus vite. Là.
C'est comme les sacs de plastique en épicerie, là, mm-hmm. qui ont arrêté d'en faire. Là, le monde, ça l'a passé. Là. Au début, là, peut-être que... Ça
les
dérange un
norme.
Peu, mais là, c'est rendu la norme.
Effectivement. Puis, dans les organisations, on n'a plus de temps. On est déjà rendu à la période de questions. Je pense que je vais vous laisser la parole. On a assez jasé entre nous, mais j'ai goût de vous entendre sur vos propres questions. Si vous avez des questions à nous poser, donc à Ludovic, à Lara ou à moi, vous avez des micros dans la salle, puis je sais que vous avez certainement une très bonne voix, mais on vous invite à prendre le micro parce que le tout est, est enregistré pour... écoute ultérieure. Alors, si vous avez une question, allez-y. Sinon, il m'en reste. Oui? Oui.
Hey, bonjour. Ah oui. Bon, et là, moi, c'est pas tant une question comme j'aimerais vous partager des réflexions qu'on a. D'ailleurs, je salue toutes les initiatives qui sont faites. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Puis je suis sûre qu'il y a plein de belles initiatives aussi dans la salle.
Nous aussi, on fait plein de choses au petit théâtre, Rosalie Chartier-Lacombe, du petit théâtre du Vieux-Noranda. Puis là, on est rendu dans des enjeux qui me questionnent énormément. T'sais. Bon, plusieurs choses. Déjà, cette année, on se met à calculer d'où viennent les gens, puis quels sont nos GES par rapport à nos spectateurs. Et là, on vient de mettre ça en place. Là, oups, on avait vendu 38 billets pour un show, puis on s'était rendu compte que c'était l'équivalent de 3 allées à Montréal-Rouen, 800 km. J'étais, oh, OK, bon, ben, c'est bien de le savoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans des situations de contexte de régions éloignées, dans des situations où il n'y a pas le transport adapté. Fait que ça, c'est un enjeu qu'il va falloir réfléchir, t'sais, parce qu'on fait venir des gens chez nous dans des grands centres. Je comprends que c'est peut-être plus simple. L'autre enjeu qu'on a, t'sais, c'est on développe, nous autres, on fait de l'intégration technologique en art vivant, puis on est tous sur des trucs collaboratifs. Mais t'sais, quand tu te rends compte du nombre de serveurs que ça nécessite pour des documents partagés, faire runner ton projecteur sans arrêt parce que tu as un mapping sur un building et tout ça. Fait que là, on est en train de commencer à calculer ça. Puis, tu sais, ça donne aussi pas… ça fait des petits frissons. J'ai pas de solution. Je voulais juste pousser la réflexion pour que peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, à un moment donné, on arrive à avoir une réflexion là-dessus puis à se documenter. Mais c'est clair que tout ce qui est fait là, c'est un pas dans le bon sens. Puis, effectivement… On accueille du public rassemblé qui crée énormément de déchets. Puis, tu sais, nous autres aussi, là, ça fait 6 ans qu'on n'a plus de bouteilles d'eau. Puis, laissez-moi vous dire qu'on est rendu avec 2 mini-bacs de récupération qui leur laissent. Il reste tellement de place dans les bacs que là, tous les voisins viennent mettre leur récup chez nous. Tu sais, bon, c'est pour vous dire. Mais voilà, fait que c'est cela. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis, qu'on en a encore énormément à faire aussi. Puis, dans certains contextes, ça peut être différent que dans d'autres. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y en a par hasard qui sont actuellement en démarche de planification, de réflexion, d'éco-responsabilité, puis vous dites, oh, on a quelques défis? Est-ce que ça vous tente de ouais, est-ce qu'il y en a qui veulent nous partager? Oh, ben bravo, je vois que c'est super populaire, c'est fantastique. Qui a certains défis que vous pourriez nous partager?
Bien, en fait, moi, on est producteur, donc il y a le défi que nos principes, on fait de la tournée, on est une compagnie de production de théâtre jeune public, puis le plus grand défi, vous l'avez nommé tantôt, en tournée, on vient avec nos camions, tu sais, il n'y a pas d'autres options. Fait, en tout cas, nous, on entend notre réflexion, on a un collectif de compagnies de théâtre jeune public de Québec qui ont décidé de s'allier ensemble pour faire la politique éco-responsable, on a obtenu une subvention, etc. Mais je serais intriguée de savoir s'il y a d'autres producteurs ou des diffuseurs qui ont des idées pour nous et des bons coups à nous partager, parce qu'on entend notre réflexion là-dessus, puis comme producteur, on est un peu, encore une fois, dans une position particulière de… On a des efforts à faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment changer parce que sinon, notre modèle d'affaires ne fait plus de sens. Là. Donc, voilà. Merci. C'est plus merci. Comme partagez-nous vos idées.
Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ce défi puis qu'ils connaissent aussi ce défi, les fameux transports?
Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas spécifiquement répondre à Léa. Mais quand Mathieu a parlé de notre demande, notre chic demande qu'on a remplie il y a bientôt 2 semaines, certains ont pu avoir l'impression que je m'étais plainte de quelque chose qui n'était pas le cas. En fait, ce qui a été ardu pour ma part, je ne veux pas parler pour les autres. Moi, je suis diffuseur en passant, je travaille à Sorel-Tracy. Bonjour tout le monde. Et nous sommes accrédités Scène éco-responsable de niveau argent depuis le mois de juin dernier, donc on est très fiers de ça. On travaille fort là-dessus depuis 2021. Et donc, je ne voulais pas me plaindre du tout, même si c'est un travail de tous les instants, l'éco-responsabilité, il ne faut jamais lâcher. Nous, depuis 2021, on y va une petite bouchée à la fois. Ce que j'ai trouvé difficile quand on a rempli notre demande, en fait, c'est que les critères qui ont été énoncés dans la demande à remplir au calque sont complètement différents des 6 champs d'action sur lesquels on se concentre pour, excuse-moi, Madame Voyer, je vous pointe, mais c'est complètement autre chose. Fait que là, moi, je suis arrivée devant ça, puis c'est juste ça qui a été difficile pour moi dans ma réflexion au calque. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je mets où? Merci, on m'appuie, il y a quelqu'un qui m'appuie, donc c'était pas… je suis pas toute seule, donc voilà, j'ai juste parlé plus fort que certains. et Léa pour répondre, je te vois pas, mais c'est sûr que plus on avance dans l'éco-responsabilité, en fait, puis j'ai un collègue aussi que j'aime beaucoup qui me disait, puis nous, c'est comme ça, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes en production, en diffusion, commencer une démarche en éco-responsabilité, si ça nous tient à cœur, ou qu'on est un organisme pas très fortuné, ou les deux, souvent, le début de la démarche est naturellement acquis, en fait. Parce qu'à l'intérieur de l'équipe, puis en tant que citoyen aussi, si ça nous importe, si chez nous on recycle, chez nous on composte, ça se transfère bien au travail. Et c'est facile que les gens adhèrent à ce qu'on demande en premier lieu. Et après, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, bronze, or, argent, platine, peu importe, ça devient difficile quand on arrive à devoir allonger des sous pour montrer notre volonté, particulièrement en production ou en diffusion, peu importe, quand on est des OBNL, je pense que c'est là que ça devient, en tout cas, un défi plus grand.
Plus que les sous, il y a aussi le temps qui manque.
Le temps, ça, j'allais pas là, mais c'est toujours un enjeu. Puis mobiliser les équipes aussi, le Lion d'or, pour l'avoir fréquenté beaucoup dans ma vie, je me souviens quand je suis arrivée puis que j'ai réalisé que vous étiez devenu éco-responsable, j'étais comme « wow ». C'est parce que, considérant la quantité d'événements que vous tenez dans une année, là, j'ai comme fait, OK, si eux ils peuvent le faire, c'est sûr que nous aussi. Donc voilà, bravo pour ça. Merci, au revoir.
Micro.
Je veux juste spécifier que je viens du cabaret Lion d'Or, je fais la direction générale, qu'on a réussi à payer Lara pendant qu'elle faisait ça grâce aux subventions salariales pendant la pandémie. Si on n'avait pas eu ça.
Et à Recyc Québec.
Et Recyc Québec, ouais. Si on n'avait pas eu ces soutiens-là, on n'aurait jamais été capable.
Exactement.
Juste pour
ouais,
le dire. Fait que c'est vrai que c'est un investissement de la part de la salle.
Oui. Merci, Sarah.
J'avais une question pour vous deux. Est-ce que démarrer une démarche d'éco-responsabilité, il y a une différence entre en partir une en région ou en plein centre de Montréal? Est-ce que vous voyez une différence? En fait, vous n'avez peut-être pas le recul de chacun, mais y a-t-il une particularité pour quelqu'un qui veut se partir quelque chose?
Bien, moi, oui, parce que je te dirais qu'en région puis dans un milieu urbain, j'ai l'impression qu'il est difficile en milieu urbain, c'est qu'il y a un volume d'affaires vraiment plus grand. Fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de matière, beaucoup plus de gens, fait que tu as beaucoup plus de choses à gérer. Puis en région, qu'est-ce qui serait plus difficile? C'est les distances. C'est que n'importe quoi tu veux faire, il faut que tu ailles plus loin les chercher. Ouais. Fait que je te dirais que c'est les enjeux qui sont différents de mon point de vue. Il y a des problèmes communs, mais il y a des problèmes différents. T'sais.
Plus de transport, effectivement.
Je suis d'accord avec lui.
Parce que la même chose, je lis le questionnement que je ne me rappelle plus. Non, par rapport au transport, parce que nous, un de nos points qu'on a au BTV-TRAF, c'est qu'on a un contexte particulier. Fait que des gens viennent de loin pour nous voir des événements chez moi. Fait que tout le temps, ce questionnement-là, je fais comme, OK, disons que tu es dans, c'est sûr que c'est comme un trou noir, là, quand tu commences à tomber là-dedans, là, tu te dis, OK, on va juste arrêter de faire rien, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça crée un contre-coup. Puis je l'avais, cette question. La même chose, nous, un des points qu'on a, qui n'est pas full applicable à tout le monde, c'est que l'infrastructure qui nous appartient, on l'utilise comme 7 jours sur 7. Là. On l'utilise 24 heures sur 24. Il y a la brasserie qui est dedans, j'habite dedans, le restaurant dedans, il est tout le temps ouvert. Puis il y a ce questionnement-là que j'avais moi aussi par rapport des fois à des lieux de diffusion qui sont comme des super grands espaces utilisés 50 fois par année. Il y a comme cette idée-là aussi, tu sais, qui est tout le temps là, que je vois des beaux exemples des fois, comme Roland Brunel, leur partenariat avec le Cégep. Fait que le Cégep utilise la salle tout le temps. Fait que là, l'infrastructure est utilisée parce que c'est la même chose comme dire je vais m'acheter un char électrique, mais si tu changes de char aux 3 ans, t'es mieux d'avoir ta minoune de 1995. Elle a un moins gros impact sur l'environnement que ton nouveau véhicule. Fait qu'il y a comme ce questionnement-là que j'ai pas de réponse, mais qu'il y a ça aussi, tu sais, que pour la brique, là, un peu, on construit des bâtiments. À quel point c'est utilisé, tu sais, des fois. Là. Fait que trouver des partenariats comme pour utiliser l'espace le plus possible. Tu sais.
Ouais, rentabiliser l'espace, hein, effectivement, ouais. ça fait en sorte que ça réduit les coûts, peut-être. Ça amortit les coûts. On a une autre question dans la salle?
Ben c'est pas une question, c'est plus pour répondre à Léa, parce que personne ne lui avait répondu.
Donc, je suis aussi dans le milieu jeune public. Donc, mais tu sais, moi, j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas oublier qu'en tant que milieu, des fois, on commence. L'exemple du BTB Draft, tu es parti avec ce que tu étais, avec ce que tu avais envie de faire, avec pas nécessairement grand-chose. Mais souvent, en tant que compagnie jeune public, on part avec pas grand-chose. Fait que, nécessairement, des fois, on est. Tu sais, comme tu dis, des fois, j'ai fait des choix par rentabilité et non par éco-responsabilité. Mais on est appelé énormément à faire des choix éco-responsables par rentabilité en tant que compagnie de production jeune public. D'ailleurs, tout notre public se déplace en autobus. C'est génial.
Quel bel addon.
C'est merveilleux. Et c'est pour ça que je dis ça, en fait, pour relativiser un peu, des fois, la pression qu'on se met quand vient le temps de faire une politique éco-responsable. Parce que, tu sais, on se dit, oh, il faudrait avoir des camions électriques pour faire de la tournée. Oui, mais vu la grosseur de ton décor, il n'y en a pas disponible. Bon, ben fin de la citation, fais ta tournée, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? C'est pas à nous à inventer des camions électriques pour nous permettre de faire des tournées. C'est aussi, mais en même temps, c'est de poser la question, sont-ils disponibles chez les locataires? Puis peut-être qu'à force de se faire poser la question, mais peut-être s'il y en a un qui devient disponible sur le marché, ils vont l'avoir, tu sais. Puis si après, ben, il n'y a pas assez de bornes pour faire des tournées plus de 100 km autour de ta ville, parce que Chris, c'est camion. Tu sais, tu veux pas surcharger. Non, mais tu ne veux pas surcharger tes équipes de tournée en les faisant recharger aux 4 km et quart. Tu sais, non, mais il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte dans nos défis à nous. Fait que je pense aussi qu'il faut apprendre à relativiser et voir où on a un réel impact et où on doit s'éduquer dans nos pratiques. Tu sais, comme par exemple, nous, à l'interne, moi, ce que je réalise, c'est qu'on a une grosse éducation à faire sur l'éco-gestion des courriels.
Ouais.
Ça de même.
Et réduction à la source.
Alors, oui, c'est ça. Ouais. Mais alors que pour le reste, il y a plein de pratiques qu'on fait déjà. Tu sais, on fait déjà des décors avec 3 bouts de carton, puis 2-3 spots, puis non, j'exagère, là, les salles sont très bien équipées. Oui, on réutilise nos décors et tout ça. Donc, tu sais, c'est qu'il y a comme toujours une question de pression. Il y a une pression énorme, comme s'il fallait être parfait, meilleur que Nordvolt, là, en ce moment, là, sans avoir les moyens qu'on... Non, non, mais tu sais, je fais une blague. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que si vous avez une politique à écrire, relativisons aussi les moyens qu'on a en fonction de ce qui est disponible. Je voudrais bien qu'on paye des hébergements éco-responsables à tout le monde, mais tu sais, si les demandes de subventions que tu as faites ne te permettent pas de les payer... Ruine pas en paix. Si tu ruines ta compagnie, hein?
Comment?
Oui, c'est ça. Ou te permettent même pas de faire ta tournée. Ben, tu sais, je veux dire, ta mission avant tout, c'est de faire une tournée. Rappelons-nous ce genre de choses aussi. Puis, essayons que ça évolue et de sensibiliser, justement, dans le fameux fichier du CAL qui disait, ben, combien devez-vous investir de plus pour le faire? T'sais, je sais que moi, quand je l'ai rempli, je disais, ben, selon le budget et le financement disponible, on va envisager des. Mais si on ne l'a pas, on ne l'a pas. T'sais, on ne ruinera pas notre compagnie, malheureusement, pour ça. T'sais, tu disais, il faut que ce soit quand même rentable.
Il ne faut pas être dogmatique avec
non,
ça.
Non, c'est ça,
reste
exactement.
C'est, comme
c'est ça que j'avais envie de te dire. Il faut comme relativiser un peu ce genre de choses. Merci.
Super. Ben, merci, ça sera le mot de la fin. Pragmatisme et environnement, ça se peut. Merci à vous. Merci beaucoup à Lara. Merci beaucoup à Ludovic. Ça a été hyper intéressant. Alors, moi, je vous souhaite à tous un excellent Rideau 2024 et puis, ben, au plaisir de vous revoir dans une prochaine édition. Merci beaucoup.